Infotrafic RTS.
Et la circulation s'écoule sans difficulté sur les routes de Suisse romande.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
La météo en deux mots, beau et chaud, jusqu'à 28 voire 30 degrés même aujourd'hui à Genève et en Valais.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Et la matinale continue avec vous, Eric Guevara-Frey. C'est l'heure de Tout un monde. Bonjour Eric.
Et bonjour Yann. Merci beaucoup. On vous retrouvera très bientôt. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTS, première vendredi 30 mai. Il est 8h. Et d'abord les infos avec le journal. Bonjour Charlotte Frossard.
Bonjour.
À la une, la situation reste très tendue à Blatten.
La rivière Lanza menace de déborder, la montagne est instable et l'armée ne peut pas intervenir. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place dans un instant. Nous parlerons également de ce rebondissement aux États-Unis. Les droits de douane de Trump sont finalement maintenus. Décision d'une cour d'appel, le temps de statuer sur le fond. Et en football, l'équipe de Suisse féminine décrochera peut-être son premier succès de l'année. Ce soir, elle affrontera la France dans le cadre de la Ligue des
L'invité de Tout un monde à 8h10, c'est Camille Etienne. On parlera avec l'activiste pour l'environnement de fond des océans, de montagne et d'espoir.
On se rend tout de suite aux abords de Blatten dans la vallée du Lütschental où on vous retrouve, Déborah Solbank. Vous avez passé la nuit sur place, elle a finalement été calme, mais les yeux restent rivés sur le lac qui s'est formé suite à l'éboulement de mercredi.
Oui, c'était vraiment l'enjeu de cette nuit et ça le restera aujourd'hui. On est entouré d'eau ici, hein. Vous l'entendez peut-être, il y a la Lanza juste à mes côtés et de nombreux ruisseaux qui viennent l'alimenter. Cette Lanza, elle est scrutée de près aux jumelles par les forces d'intervention postées ici, elles aussi. Pour l'heure, le niveau de l'eau ne s'est pas élevé, mais et puis l'eau qui est présente est claire, mais elle commence à se teinter de brun, signe que l'eau du lac qui s'est formée suite à l'éboulement s'est trouvé un chemin et commence à s'écouler.
Que va-t-il se passer aujourd'hui, Déborah?
Eh bien, à ce stade, le mot d'ordre est toujours observation, davantage qu'intervention, parce que le terrain, par son instabilité, reste dangereux, donc impraticable. Pas exclu que des milliers de mètres cubes au-dessus de nous ne tombent, et pas question donc d'engager la sécurité des nombreuses personnes présentes. Donc oui, phase aiguë d'observation très pointue et vigilance absolue. Le géologue cantonal Raphaël Maillera disait ce matin sur nos ondes que le risque d'évacuation va perdurer durant des semaines.
Déborah Solbank en direct de Blatten, merci. Et on l'entendait, hein, la population ne peut pas s'approcher, l'armée ne peut pas intervenir non plus. Elle a été appelée à la rescousse. Reynaldo, répondant au sein de l'armée pour l'appui aux autorités civiles, explique ce qui est mis en place et ce qui se prépare aujourd'hui.
Alors oui, ce terrain, on nous a appelé il y a quelques heures, on peut dire, avec deux missions principales. Il s'agissait de pomper éventuellement le lac pour éviter ce débordement qui pourrait être dangereux potentiellement. Et deuxièmement, des machines lourdes qui auraient pu enlever des gravats, du matériel. Et dans le fond, on se retrouve dans une certaine frustration vis-à-vis de l'opération en tout cas. Parce que la masse est dangereuse, la masse est instable. J'ai entendu ce matin très tôt, on m'a dit que c'est un nouveau monde. On n'a pas de spécialiste vraiment qui peut nous dire de manière sûre de quelle manière elle va réagir. Donc on est dans l'observation, mais on est surtout dans la préparation. Et c'est pour ça qu'on a des troupes qui sont déjà prédispositionnées. On a des états de préparation qui ont été élevés afin d'assurer les missions qui pourraient venir ces prochaines heures.
Reynaldo qui répondait il y a quelques instants dans cette matinale à Pietro Bugnon. C'est toujours l'angoisse donc à Blatten après l'effondrement du glacier. L'angoisse et le choc pour les évacuer. Une cellule de crise a été mise en place. Selon son chef Jonas Jetzner, les habitants essayent de trouver du réconfort comme ils le peuvent. Ils parlent peu et ils ont peur.
On a senti une grande peur qu'ils ont eue. On doit être dans tous les villages, des personnes qui se prennent dans les bras. Ils pleurent, ils ne trouvent pas les mots encore parce qu'ils ont tout perdu.
Il y a d'ailleurs des cellules psychologiques qui sont sur place, des cellules de soutien psychologique qui ont été mises sur pied.
3 heures après la catastrophe, les premières étaient sur place. C'est beaucoup qui prennent la possibilité de parler avec des spécialistes.
Et la solidarité s'organise après le drame pour leur venir en aide. Caritas et la Croix-Rouge suisse ont débloqué 400 000 francs pour les sinistrés. Une première aide urgente en concertation avec les autorités. La chaîne du bonheur, quant à elle, a activé son fonds permanent pour les catastrophes en Suisse. Vous pouvez faire un don avec la mention « Catastrophe naturelle en Suisse » sur le site bonheur.ch.
Une courte majorité des Suisses ne veut pas des nouveaux organismes génétiquement modifiés.
C'est ce que montre un sondage Sotomo publié publié cette semaine. 51% des personnes interrogées disent non ou plutôt non à l'utilisation du ciseau génétique dans l'agriculture suisse. La question a son importance puisque Phileas Autier, la Confédération, pourrait autoriser cette technologie.
Les nouveaux OGM pourraient permettre de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires ou encore augmenter la résistance face à la sécheresse. C'est du moins l'avis du Conseil fédéral qui justifiait ainsi il y a deux mois sa proposition autoriser ces OGM, les ciseaux génétiques. Plus précis que les outils classiques, ils coupent un bout de l'ADN d'une plante pour l'insérer dans le matériel génétique d'une autre plante de la même espèce. Comme le montre le sondage Sotomo commandé par le camp anti-OGM, 51% des sondés sont opposés à cette technologie. 41% sont favorables. Une opinion plutôt divisée, mais la majorité est claire sur les précautions à prendre en cas de potentielle autorisation en Suisse. 91% des sondés demandent une évaluation des risques avant l'autorisation de chaque variété génétiquement modifiée. Un examen que le Conseil fédéral souhaite, lui, assouplir dans certains cas. L'opinion de la population sur ce thème a un poids particulier, car le peuple devrait à terme voter. L'Association pour des aliments sans OGM récolte actuellement des signatures pour une initiative populaire.
Aux États-Unis, les droits de douane voulus par Donald Trump sont finalement maintenus.
Oui, le temps de statuer sur le fond de l'affaire. Ainsi, on a décidé hier une cour d'appel saisie par la Maison Blanche. Ce revirement survient après qu'un tribunal américain a bloqué mercredi l'augmentation drastique prévue par le président américain. Selon le directeur de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis, Raoul Sagal, la patience est de mise.
De toute façon, on est encore dans cette période de 90 jours jusqu'au 9 juillet. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec cette justice. Mais pour la Suisse et pour nos négociations, je pense, en ce moment, ça augmente peut-être notre chance pour une bonne fin. Moi, je crois qu'en ce moment, il faut patienter s'il n'y a pas d'urgence. Et à mon avis, de toute façon, jusqu'au 9 juillet, il faut attendre de voir où on est entre la Suisse et les États-Unis.
Des propos recueillis par Manuela Salvi. En Syrie, l'État islamique a revendiqué hier sa première attaque contre les nouvelles autorités syriennes depuis la chute du président Bachar al-Assad. L'attaque a eu lieu dans le sud du pays, selon un organisme spécialisé dans la surveillance des sites islamistes. Le groupe djihadiste avait été défait en 2019 par les forces kurdes avec le soutien d'une coalition internationale, mais des cellules dormantes subsistent dans le pays.
Et du football maintenant, Charlotte, l'équipe de Suisse féminine affrontera la France ce soir.
Oui, ce sera à Nancy dans le cadre de la Ligue des Nations. Dernière de son groupe, après 4 matchs, il y a urgence pour les Suisses alors que se profile le championnat d'Europe en Suisse cet été, Grégoire Augier.
L'équipe de Suisse féminine attend toujours son premier succès en 2025. Avec 2 petits points en compteur dans cette Ligue des Nations, la sélection helvétique n'a plus droit à l'erreur. Pour éviter la dernière place synonyme de relégation, elle doit réussir un résultat face à la France qui pointe en tête du groupe. Même si la tâche s'annonce ardue, la milieu de terrain Imane Benet est persuadée que la Suisse peut créer la surprise.
Le défi s'annonce grand, mais je pense qu'on a toutes nos chances. Si on joue comme on sait jouer, qu'on trouve nos solutions et qu'on se bat l'une pour les autres, je pense qu'on a toutes nos chances. C'est un peu compliqué parce qu'on fait des bons débuts de match, etc. On a nos actions aussi, mais au final, on marque pas ou dans les dernières passes, des fois c'est un peu compliqué, mais là on va essayer de mettre le focus aussi là-dessus pour pouvoir marquer des buts et remporter les 2 matchs.
Après la France ce soir, la Suisse affrontera la Norvège mardi à Sion. Tout cela un mois avant le début du prochain championnat d'Europe qui se déroulera en Suisse. Ces 2 parties doivent donc permettre à l'équipe de Suisse de retrouver de la confiance et de la sérénité. Imane Benet.
C'est important de rester focus parce que c'est la préparation en fait pour l'Euro aussi, que ces équipes, on va les jouer à l'Euro, donc c'est important pour nous de trouver nos solutions et de voir comment on pourrait faire.
Un succès ce soir face à la France permettrait aussi à la Suisse d'envoyer un message fort à quelques semaines du début de l'Euro.
Et ce match entre la France et la Suisse est à suivre en direct ce soir dès 21h sur RTS2 ainsi que dans nos rendez-vous d'information. On termine ce journal au Guatemala où des archéologues ont découvert des vestiges d'une mystérieuse cité maya vieille de plus de 2800 ans. Des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments sculptés sur 16 km². Le site date du préclassique moyen et il est l'un des centres cérémoniels les plus anciens et importants de cette période. Il a été baptisé Los Abuelos, les grands-parents, en raison de la découverte d'une sculpture d'un couple ancestral.
Et merci Charlotte Frossard pour votre journal. Vous êtes sur RTS Premier. Nous aussi, il est presque 8h10.
Tout un monde, Éric Guevara-Frey.
La libre parole ne peut pas être un danger pour la démocratie.
Quand sait-on ? Tant de prévisions ont été démenties.
C'est une possibilité, pas une garantie.
Bonjour, Camille Etienne est notre invitée ce matin. Avec l'activiste pour l'environnement, nous parlerons des enjeux autour des fonds, des océans et ça passe aussi par la Suisse. Elon Musk retourne à ses affaires lors de son bilan à la tête du département de l'efficience gouvernementale. Et puis sur l'île grecque de Santorin, les séismes interfèrent avec le tourisme cette année. 3, 2, 1. Bonjour Camille Etienne.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Tout un monde ce matin pour parler environnement et d'abord au fond des océans. Vous êtes une activiste bien connue à travers vos documentaires, les réseaux sociaux, entre autres. Alors, je dis fond des océans parce qu'avec d'autres, vous avez soulevé le gros enjeu de l'extraction minière en haute mer. En anglais, c'est le deep sea mining. C'est quand on racle le fond des océans pour en extraire les minerais destinés à l'industrie, nickel, cobalt, manganèse, cuivre, etc., dont on a besoin pour les batteries, pour la technologie en général. Une pratique critiquée pour son impact environnemental important. Alors, les pays européens n'y sont pas favorables, ou alors timidement, entre interdiction totale et moratoire. Les États-Unis de Donald Trump, en revanche, veulent l'autoriser sans aucune restriction. Camille Etienne, à l'heure où on se parle, est-ce que la balle est toujours dans le camp de la Suisse, là, puisque la seule entreprise qui peut aujourd'hui fournir le matériel nécessaire s'appelle Allseas, et elle est en Suisse, dans le canton de Fribourg?
Absolument. Alors la balle est plus que jamais dans le camp de la Suisse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait plusieurs années qu'on essaye avec tout un tas de scientifiques, de biologistes, de géologues, de diplomates, d'activistes à travers le monde, vraiment, d'essayer de poser un moratoire le temps que la science avance. Et qu'on puisse dire, c'est l'endroit qu'on connaît le moins au monde, les abysses. Il y a plus de personnes qui sont allées sur la surface de la Lune que dans le fond des océans. Et les premiers impacts sont vraiment catastrophiques, notamment pour l'écosystème, mais aussi parce que il faut imaginer que l'océan, les abysses, c'est vraiment le principal puits de carbone. C'est comme si vous aviez une grande cocotte minute qui nous aide à garder une grande partie du carbone et qu'on déciderait de le lever. Donc c'est extrêmement dangereux. Et on a eu un executive order, comme seul Trump sait les faire il y a quelques semaines, pour redonner un petit peu de contexte, qui allait autoriser l'exploitation minière des fonds marins dans ces eaux, mais aussi dans les eaux internationales. Donc en dépit de tout droit international, en dépit de toutes les négociations qui ont lieu entre plus de 170 pays depuis littéralement des années et des années. Pourquoi la Suisse maintenant est clé? C'est parce que il y a une entreprise qui pourrait commencer, c'est The Metal Company, une entreprise canadienne, qui sera donc autorisée par les États-Unis de Trump. Et cette entreprise canadienne a un bateau et des technologies qu'il faut imaginer des choses extrêmement précises. On est vraiment très, très, très profond dans l'océan, donc ce sont des technologies difficiles à avoir. Eh bien, ce sont des technologies suisses. Donc, on pourrait être fier de plein d'autres choses, des paysages de Suisse, mais peut-être que c'est pas la première des fiertés à avoir. Donc, si la Suisse décide d'être intransigeante et cohérente avec ses engagements climatiques, eh bien, elle devrait tout faire pour arrêter Allseas.
Alors, Allseas, on les a contactés. Ils nous disent qu'ils sont une entreprise familiale responsable, qui a toujours eu pour principe de minimiser l'impact environnemental de ses activités et qu'on peut, c'est ce qu'ils nous disent, collecter la matière au fond des océans de façon responsable. Vous, ça ne vous convainc pas, ça?
Alors, c'est en dépit de vraiment un consensus scientifique, c'est pas moi qui le dis pour le coup, c'est vraiment, on ne connaît pas les impacts qu'il peut avoir à ce niveau de profondeur. À chaque fois qu'il y a une nouvelle expédition qui est faite dans ces abysses-là, on découvre de nouvelles espèces. Ce qui m'a fasciné aussi, c'était de parler avec certains biologistes et de se rendre compte que c'est vraiment un trésor, les abysses, ne serait-ce que pour la médecine. Il y a beaucoup de recherches, par exemple, qui est faite sur la maladie d'Alzheimer, sur le cancer du cerveau. Donc en fait, c'est se priver d'une bibliothèque sans même savoir si on la condamne pas, alors qu'on commence à ouvrir le premier livre.
Et Allseas nous invite aussi à surmonter le débat binaire, c'est ce qu'ils nous ont répondu, qui oppose l'environnement d'un côté, l'économie de l'autre. Pour eux, si on prend en compte tous les facteurs, in fine, l'extraction minière en haute mer permet de soutenir la transition écologique en minimisant son impact, parce que ça a moins d'impact, disent-ils, que l'extraction minière sur Terre. Ça, pour vous, c'est pas valide non plus?
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà extrait énormément de minerais en tant qu'humanité. Et que, contrairement au plastique, des matières comme le nickel, le manganèse, le cobalt se recyclent extrêmement bien. Et donc, je pense que ce serait bien plus pertinent pour eux. Il y aurait même un business à faire d'un point de vue économique pour Allseas s'ils veulent se reconvertir dans le recyclage de ces minerais-là. ce qui permettrait de n'avoir pas à choisir entre, en effet, des mines, par exemple, de nickel au Congo ou en Indonésie, qui vont exploiter parfois des enfants ou détruire des forêts, et de l'exploitation minière des fonds marins qui met littéralement l'humanité à risque. Peut-être qu'on a, pour une fois, on n'a pas forcément à choisir entre la peste et le choléra, mais qu'on peut peut-être être un peu innovant. Comme ces entreprises adorent parler d'innovation, eh bien, ça tombe bien, c'est vraiment le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la communauté scientifique est sans appel. Commencer l'exploitation minière des fonds marins, ce serait se condamner une des dernières chances qu'on a de faire face au dérèglement climatique.
Même si pour l'instant, il n'y a à vrai dire qu'une entreprise, hein, vous la citiez, TMC de Metal Company, cette entreprise canadienne qui est sur les rangs pour faire de l'extraction minière en haute mer, parce que, et vous le disiez aussi, c'est cher, c'est compliqué. Est-ce que la menace est vraiment de grande ampleur ou c'est plus pour le principe?
Alors, malheureusement, il y a d'autres... En fait, il faut se dire que The Metal Company est une des plus grandes en termes de poids politique, de lobbying qu'ils ont essayé de faire depuis des années auprès de l'autorité internationale des fonds marins. Je vous invite à regarder, il y a une très bonne enquête du New York Times pour voir la porosité entre à la fois The Metal Company parfois et certains représentants de l'ONU. Et donc en fait, il faut se dire que pour l'instant, on a une entreprise, parce que c'était presque de la science-fiction. On peut se dire, aller à ce niveau-là de profondeur, ça, c'est tellement technique. Mais à partir du moment où on commence, alors on lance la course. C'est vraiment le feu vert, ce serait la lancée vers une toute nouvelle industrie. Donc ensuite, on sait que tout un tas d'entreprises qui pour l'instant considèrent ça s'engouffrerait dans la brèche, c'est là où ça devient vraiment dangereux.
Alors, il y a un consensus scientifique, vous nous l'avez rappelé, Camille Etienne. On n'est encore pas tout à fait au consensus politique. La nouvelle conférence de l'ONU sur les océans qui s'ouvre à Nice le 9 juin, là, c'est dans quelques jours. Le projet de déclaration finale, en l'état actuel, n'inclut pas cette question du deep sea mining, de l'extraction en haute mer, parce que justement, il n'y a pas de consensus, c'est ce que disait le secrétaire général de la conférence cette semaine. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ce consensus politique cette fois?
Alors, on a de la chance d'avoir beaucoup d'associations comme qui travaillent vraiment, notamment même en Suisse, en fait, à pousser les certains des pays. Donc, par exemple, la Suisse a été une des victoires. Il y a quelques mois, on avait travaillé avec des associations locales, avec des diplomates et avec des activistes aussi de terrain, pour faire en sorte que la Suisse rejoigne le moratoire. Donc, il faudrait du temps. En fait, il faudrait du temps et il faudrait que on continue de laisser la science parler avant peut-être les intérêts économiques, ce qui me semble être une bien plus sage décision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on poste, c'est un moratoire, donc c'est-à-dire une pause scientifique d'au moins 10 ans avant qu'on puisse réellement connaître les impacts. C'est une forme de pause de précaution. Je pense que toute personne rationnelle comprend que quand on a un danger potentiel si grand, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir avant.
On a beaucoup parlé d'océan, mais vous êtes en fait une montagnarde, hein, Camille Etienne.
Absolument.
Quand vous voyez la catastrophe de Blaton en Valais, qui fait le tour du monde, hein, ce village rayé de la carte par l'effondrement du glacier qui était au-dessus, vous dites quoi? C'est la fatalité? La montagne bouge comme elle a toujours bougé, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, ou ce genre d'événement risque de se reproduire plus et plus fort?
Alors déjà, j'imagine que ce serait difficile d'entendre pour les habitants de ce village que quelque part il y aurait une forme de normalité auquel on devrait s'adapter, auquel on devrait s'accommoder. L'intensité des événements climatiques et leur récurrence est vraiment accélérée par le dérèglement climatique. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu des glaciers qui se sont effondrés avant. Ce que ça veut dire, c'est que la rapidité avec laquelle cela arrive et le nombre d'endroits auxquels cela arrive va faire qu'augmenter. Et moi, j'ai grandi près d'un glacier, alors pas suisse, français. On n'était pas très très loin, dans les Alpes. Et c'est vrai que c'est ce qui a été mon déclencheur, j'espère pour plein d'autres gens aussi, en fait, de voir mon paysage disparaître et d'être peut-être une des premières à devoir dire au revoir à un paysage, à faire le deuil d'un endroit, d'un terroir. Ça, c'est parfois vraiment le début d'étincelle qu'on a besoin pour ensuite faire une longue route de combat.
Et dernière question, Camille Etienne, qu'est-ce que vous dites aux ados qui nous écoutent, hein, ou à leurs parents qui nous écoutent, soyons honnêtes, pour leur donner de l'espoir? Parce que là, ils sont pris dans l'anxiété à la fois de ce qui arrive, de l'avenir assez sombre qu'on leur annonce, et puis justement de tous les discours, de tout ce qui se dit là autour. C'est quand même hyper angoissant. Vous leur dites quoi pour qu'ils aient de l'espoir?
Bien sûr, et bien d'abord que l'action donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et que, vous voyez, quand nous, on a commencé, moi, quand j'ai appris pour la première fois à entendre parler du deep sea mining, il y avait très, très peu de pays qui avaient rejoint le moratoire. Mon pays, à moi, enfin, la France était opposée. La Suisse aussi était opposée, justement, voulait pas d'un moratoire, mais voulait de l'exploitation minière des fonds marins. Et donc, à force de travail avec tout un tas de gens, on a réussi. Ce qui nous semblait fou, ce qui nous semblait complètement impossible. Donc en fait, j'ai énormément d'espoir au quotidien parce que je vois qu'on y arrive, je vois que c'est possible quand on s'organise ensemble, en collectif. Donc je vous invite à rejoindre les associations suisses auprès de chez vous. Il y en a plein. Alors, on a Greenpeace, il y a plein d'autres associations locales aussi, ou de créer même les vôtres. Mais c'est là où ça se joue parce qu'on reprend du pouvoir et on sort enfin de cette sidération. Juste un dernier mot, il faut savoir que la sidération qu'on peut ressentir, notamment avec des personnages comme Elon Musk ou même Trump, en fait, c'est aussi décidé. Ça a été théorisé par le directeur de communication de Trump quelque part de donner le plus d'informations possible pour que on ne puisse même plus fonctionner que notre cerveau. De saturer la zone. Donc moi, je préfère arrêter de réagir seulement, mais plutôt de faire un pas de côté et de dire comment est-ce qu'on construit quelque chose, vraiment un monde pour lequel ça vaut le coup de se battre. Et ça, ça passe sur le terrain, dans la société civile. Moi, j'y crois beaucoup. On a du pouvoir.
Camille Etienne, merci beaucoup d'être venue dans Tout un Monde ce matin.
Merci à vous.
Et très bonne journée.
Perhaps you've heard of it. And we are just getting started.
Démanteler la bureaucratie gouvernementale.
The chainsaw for bureaucracy.
Réduire les dépenses inutiles.
Des coupes budgétaires massives, 2 000 milliards de dollars, sur un budget fédéral d'un peu moins de 7 000 milliards.
Et restructurer les avances fédérales.
Chainsaw.
Voire les supprimer.
L'idée, c'est de sabrer dans les rangs.
Et c'est ce qu'il a fait, Elon Musk, en 4 mois passés comme employé spécial du gouvernement américain à la tête du célèbre DOGE, le département de l'efficience gouvernementale. Il a supprimé des milliers d'emplois de fonctionnaires fédéraux et des agences entières. Il en avait fait la promesse, taillée à la tronçonneuse dans les finances publiques. Son mandat se termine comme prévu cette semaine. Il a confirmé hier qu'il quittait le gouvernement pour retourner à ses entreprises. Et il a immédiatement critiqué, d'ailleurs, le projet de budget de Donald Trump, accusé de dépenser trop. Maintenant, Cécile Denayrouz, l'heure est au bilan pour Elon Musk.
La tronçonneuse est au placard et le bilan est amer. Des milliers de fonctionnaires poussés à la porte, des coupes massives dans des institutions clés, pour seulement au final, 170 milliards de dollars d'économies annoncées par le Doge. Un état des lieux décevant, mais c'était sans compter sur les révélations du Financial Times et du New York Times. Des journalistes data ont épluché les comptes fièrement affichés par le Doge, ils ont croisé les sources, analysé les données, et résultat, le bilan s'avère truffé d'erreurs, d'approximations, de doublons, quand ce ne sont pas carrément des malversations comptables. Au final, seul un tiers de la somme annoncée se révèle vérifiable. Mais comment l'expliquer ?
On peut parler d'amateurisme parce que ces personnes qui accompagnaient Elon Musk étaient souvent très jeunes, très bons dans l'informatique et dans tout ce qui est nouvelles technologies et recueil de données, mais ne connaissaient pas et ne comprennent pas toute cette culture des agents de l'État.
Pour Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, l'équipe d'Elon Musk n'était tout simplement pas préparée à ce qu'elle allait trouver.
Et puis, il y a des éléments de langage administratif, il y a une façon de fonctionner qu'ils ne maîtrisent pas. En fait, on a vu qu'il y avait des éléments d'incompréhension des données qui étaient récoltées. Il y a eu des accusations, par exemple, que des personnes de plus de 100 ans étaient couvertes par l'État, alors qu'en fait, mais il n'y avait pas d'argent qui leur était donné. Il y a aussi eu des chiffres où on est passé de millions à milliards, et puis à nouveau à millions, en s'apercevant qu'il y avait des erreurs énormes qui font qu'il n'est pas sûr du tout qu'il y ait en réalité de vraies économies.
Alors, ce projet d'efficience gouvernementale, Donald Trump le présentait déjà pendant sa campagne comme un pilier de sa présidence. Maintenant, ça pourrait lui exploser entre les mains.
Effectivement, Elon Musk laisse derrière lui un champ de mines. Ludivine Gilly, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès.
La désorganisation frappe l'ensemble de l'État fédéral. Et donc, on constate des dysfonctionnements partout, c'est-à-dire à la fois dans tout le pays, et dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la science, de la culture, l'effet de ces coupes budgétaires à l'avenir sera bien pire en termes d'impact sur les finances et sur l'économie que les supposées économies qui sont réalisées aujourd'hui.
Et le bilan n'est pas bon pour Elon Musk lui-même. L'homme le plus riche du monde repart un peu moins riche qu'à son arrivée, mais sa situation financière pourrait s'améliorer dans les mois à venir. Durant son court passage au Doge, il n'a pas hésité à mêler plus ou moins discrètement ses propres affaires à celles de l'État.
Par exemple, la FAA, qui réglemente tout ce qui est aérien, réglemente notamment SpaceX. Musk a également une entreprise qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur des dispositifs médicaux qui sont réglementés par le ministère de la Santé. Tesla est également contrôlé par des entités gouvernementales, et X également. Donc ça pose de grandes questions de potentiels conflits d'intérêts.
Il repart donc moins riche, mais pas pour longtemps.
Il faudra également regarder comment Elon Musk réussit à tirer parti des informations qu'il a pu obtenir lors de son passage au sein de l'administration Trump, puisque Elon Musk a pu mettre la main sur de très nombreuses données personnelles des États-Unis, mais aussi potentiellement sur les données de compétiteurs économiques.
Elon Musk s'en va donc, mais avec une étiquette supplémentaire dont il se serait bien passé, celle de loser, de perdant, et c'est son image qui ressort abîmée par ce passage en politique. Et avec ça, c'est toute une vision de la réussite à l'américaine qui vacille. Jérôme Viala-Godefroy.
Il y a aux États-Unis vraiment tout un mythe autour de l'homme d'affaires, et beaucoup sont tout à fait d'accord avec cette idée que l'on voit chez Donald Trump et chez Elon Musk et quelques personnes de la tech, c'est cette idée que on peut diriger le pays comme on dirige ses affaires. Le problème, c'est que souvent, déjà, le fonctionnement n'est pas du tout le même, et il y a une forme vraiment d'hubris, c'est-à-dire de cette idée qu'on est invincible parce qu'on a tellement réussi. Et là, on est effectivement dans quelque chose qui ressemble un petit peu au mythe d'Icare qui se rapproche du soleil, qui a cette technologie, cette possibilité de voler, qui s'envole et qui se brûle.
Bon, et maintenant, qu'est-ce que le DOGE, le département de l'efficience gouvernementale, va devenir ?
Avec le départ d'Elon Musk, le DOGE perd son plus célèbre visage, mais ne perd pas la tête pour autant. Sa mission continue. Russell Vought, actuellement
Cécile
à la tête de l'OMB, l'Office of Management and Budget, reste en fonction au sein du département. Il n'est pas aussi visible qu'Elon Musk, il n'a pas de tronçonneuse, mais il prépare actuellement les textes législatifs qui permettraient au Congrès de procéder légalement, cette fois, aux coupes effectuées par Elon Musk depuis son arrivée.
Cécile Denérouze, merci.
Tout un monde.
L'île de Santorin, c'est un symbole du tourisme estival en Grèce. Ces paysages que les visiteurs du monde entier postent sur Instagram, eh bien, l'île les doit à une puissante éruption volcanique il y a 3500 ans. En début d'année, des milliers de séismes de faible intensité, un essaim sismique, c'est comme ça qu'on l'appelle, ont perturbé pendant un mois le quotidien de Santorin. Résultat, une forte baisse de la fréquentation en ce début de saison. Reportage sur place, Joël Brunner.
L'an dernier, Santorin a accueilli plus de 3 millions de visiteurs sur son sol volcanique. En ce mois de mai, synonyme de début de saison touristique, le nombre de touristes est toutefois en nette diminution. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Émilie, la quarantaine, vacancière originaire des Vosges.
Alors moi, je suis très très habituée de la Grèce, où je suis beaucoup venue au fil des années. J'ai toujours renoncé à Santorin par crainte, je dois bien l'avouer, des hordes de touristes. Et cette année, j'ai entendu qu'il y avait eu une petite alerte sismique, qu'il y avait moins de monde que d'habitude, et donc je me suis décidée un petit peu au dernier moment pour venir visiter Santorin, et je ne le regrette pas.
Dans le hall de l'aéroport de Santorin, juste avant leur vol retour, l'heure est au bilan du séjour pour Louise et Brahima, couple de Parisiens de 22 et 25 ans.
Parfois, tu mangeais, il n'y avait presque personne. La nourriture est hyper bonne, donc ouais, c'était assez agréable.
En début d'année, à Santorin, un tremblement de terre a atteint 5,3 sur l'échelle de Richter. C'était le plus puissant d'une série de plus de 23 000 séismes de faible intensité, tous n'ont d'ailleurs pas été ressentis, qui ont touché l'île entre janvier et février. De quoi susciter au départ quelques interrogations dans la famille de Louise.
Ouais, un peu inquiet, moi j'y ai pas pensé. Ma maman m'a tout de suite envoyé en février, justement, quand il y a eu les tremblements. Elle m'a dit « Quand est-ce que vous partez ?»« Si vous y allez bientôt, n'y allez pas. » Donc je lui ai dit « T'inquiète pas maman, on part en mai, donc je pense que ça ira. » Mais on y a pensé. Moi, ici aussi, en y étant, j'y ai pensé de temps en temps, me disant « Oh tiens, là, s'il y avait un tremblement, tout ça. » Mais non, ça ne nous a pas plus inquiété que ça.
Constantinos Karamolegos, lui, n'était pas serein au moment des séismes de l'hiver. Avec 3 enfants en bas âge, sa femme et lui ont même hésité à quitter l'île quelques temps, avant de finalement choisir de rester. Ce père de famille travaille sur une exploitation viticole où les touristes peuvent visiter un musée du vin et goûter la production locale qui exprime le terroir volcanique de l'île.
La fin de la saison touristique sera sûrement meilleure et je pense que cette mauvaise publicité peut parfois aussi attirer du monde. Certains touristes étrangers viennent ici en se disant que Santorin pourrait disparaître un jour et qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie.
Si Santorin, la photogénique, attire autant, c'est en effet en raison de sa situation géologique unique, à la surface d'un volcan géant, en partie englouti sous les eaux. Sur l'île, Adonis Pagonis est président du syndicat des hôteliers. Il dépeint une saison touristique difficile, plombée par les incertitudes économiques au niveau mondial et bien sûr les séismes du début d'année à Santorin. Le professionnel évoque ainsi des réservations en baisse de 25 à 30% par rapport à l'an dernier.
Février et mars sont des mois cruciaux pour les réservations des autres continents. Les Américains, les Asiatiques ou les Australiens ne réservent pas à la dernière minute un voyage pour Santorin. Seuls des voyageurs européens le font. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations ici. Mais en revanche, il y a eu un gel important des réservations. À titre d'exemple, certains hôtels sont passés de 20 réservations par jour à zéro.
Moins de visiteurs ne signifie pas que Santorin est vide pour autant, en particulier au niveau des deux villages principaux que sont Phira et Ia, ornés de ces façades blanchies à la chaux, caractéristiques de l'archipel des Cyclades. Mais pour cette île, devenue l'un des symboles du tourisme de masse en Grèce, l'affluence cette année a tout de même été fortement secouée par les séismes de l'hiver.
Un reportage de Joël Bronner. Tout un monde s'écoute aussi en direct ce podcast sur Play RTS. Cédric Guigon, Mathilde Salamin, Julie Rosis, Adèle Tiguer et Cécile Denérouze dans l'équipe avec moi cette semaine. Au générique de la matinale, Yana Medro à la production avec Manuela Salvi et Jean-Philippe Routz. Attaché de production, Alexandra Vito, Karine Schurfa, Cindy Soji. À la technique, Caroline Dumoulin, Frédéric Tsan, Igor Imov, Damien Barrière, Constantin, Colin Courte avec Sophie Daout et Thibaut Tchéric, rédacteur en chef Laurent Caspari, ses adjoints Xavier Alonso et Esther Coco avec Pierre Bavot. La semaine prochaine, je vous retrouverai dès 6h pour la matinale. C'est Cédric Guigon qui vous présentera Tout un monde. Mais pour l'heure, il est 8h31. Voici les infos d'Audrey Mondy. À lundi.
Les habitants des communes de Gampelechtek doivent se tenir prêts à évacuer. La nuit s'est révélée plutôt calme dans le Lütschental en Haut-Valais, mais le lac provoqué par les éboulis à Blatten menace toujours de déborder. Il pourrait atteindre jusqu'à 30 mètres de profondeur selon les experts sur place. Les pompiers ont installé des digues dans la vallée pour prévenir les inondations. En parallèle, le danger d'éboulement persiste dans la zone de Blatten. L'armée a mobilisé 53 personnes sur place, mais reste pour l'heure cantonnée à des préparatifs. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, prévoit de se rendre cet après-midi sur place, notamment pour montrer le soutien du Conseil fédéral. Et hasard du calendrier, une étude publiée hier dans la prestigieuse revue Science montre que les glaciers sont plus vulnérables au changement climatique qu'on ne le pensait. Les trois quarts de leur masse pourraient disparaître dans les siècles à venir si on ne change rien. Il s'agit de la vision la plus détaillée à ce jour des risques encourus. Aux États-Unis, encore un revirement dans le dossier des droits de douane. Hier, un tribunal américain a d'abord suspendu les taxes dites réciproques imposées par le président Donald Trump. Puis une cour d'appel a décidé de les remettre en vigueur temporairement, le temps de se prononcer sur le fond. Et autre décision du gouvernement Trump examinée par les tribunaux, celle d'interdire à la prestigieuse université Harvard de recruter des étudiants étrangers. Une juge américaine affirme qu'elle bloquera temporairement cette mesure. L'Ukraine se dit prête à participer à de nouveau pour parler avec la Russie. Une rencontre proposée par Moscou pourrait avoir lieu lundi à Istanbul, mais au préalable, Kiev souhaite recevoir un document détaillant les conditions de la Russie pour une paix durable. Le 16 mai dernier, un premier cycle de négociations en Turquie n'avait pas abouti. À Roland-Garros, le Français Richard Gasquet a fait ses adieux hier au monde du tennis. Il a mis fin à sa carrière après sa défaite au deuxième tour contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Novak Djokovic, lui, a battu un autre Français, Corentin Moutet, en 3-7.
On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Bonjour,
et le salut à mes camarades du jour, Christophe Ungar et Antoine Drou.
Bonjour.
La saison des festivals est lancée, mais beaucoup de concerts sont rapidement complets. Alors comment trouver malgré tout un billet et l'acheter sans se faire arnaquer? C'est votre enquête, Christophe.
Oui, une enquête un peu malgré moi, car je me suis fait avoir sur Internet. Pressé par le temps, j'ai ignoré toute une série de drapeaux rouges qui permettent, par exemple, assez facilement de repérer un faux profil de vendeur sur les réseaux sociaux ou l'utilisation de ce qu'on appelle des money mules.
Vous nous en direz plus dans un instant et on vous dressera donc une liste très utile de ces drapeaux rouges, de ces indices d'arnaque d'ici quelques secondes. Vers 8h50, la séquence courrier avec le deuxième service. On parlera notamment nourriture en EMS, pauvreté et randonnée. Et puis comme c'est vendredi, c'est donc cuisine dont on en parle avec vous Antoine. Et ce matin, un guichet consacré à l'utilisation du sel.
Oui, quand faut-il saler la viande? Avant, pendant ou après la cuisson? Et les lentilles? Et les légumineuses? Quels sont les principes de la cuisson en croûte de sel? Par quoi remplacer le sel si on doit réduire la dose? Eh bien, si vous vous posez ce genre de questions, n'hésitez pas, vous nous appelez 0800 108 208. Le standard est déjà ouvert.
Avec Bastien Fonvis et Marie Prat pour répondre à vos appels et Luana Biadici à la technique. Bienvenue.
Philippe Gérard.
L'Avanche Open Air aura lieu ce week-end, le Caribana la semaine prochaine, et puis le Montreux Jazz Festival, et puis le Paléo. La saison des festivals de musique débute avec l'arrivée des longues soirées ensoleillées. Beaucoup de concerts sont toutefois rapidement complets, ça devient alors impossible d'acheter un billet officiellement. Alors comment, malgré tout, dénicher le précieux sésame, mais sans se faire arnaquer? C'est ce qu'on va voir avec vous, Christophe.
Oui, et comme j'ai dit, c'est une histoire un peu personnelle qui m'a conduit à mener l'enquête. Le week-end passé a eu lieu le Dricino Festival, dans ce bel écrin jurassien près du village de Courgenay. Ma fille de 13 ans, comme de nombreux ados, voulait absolument voir Joker sur scène. Vous connaissez Joker?
Joker.
Joker.
Oui, je connais de nom, mais je
crois... Trop vieux.
Voilà.
Ouais.
Ouais.
Bon. Enfin, moi.
Bon, vous n'avez rien raté. Mais, blague à part, et qu'importe la programmation... Une très belle initiative de ce festival, l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, mais à condition d'être accompagné par un adulte. Malheureusement, moi, je m'y suis pris un peu tard et quand j'ai voulu acheter officiellement un billet, c'était complet. Ma fille n'était donc plus certaine de pouvoir y aller non plus.
Et c'est le drame.
Ouais, ça a failli être le drame. On s'approchait à grande vitesse de ce drame. Grosse pression en tout cas pour moi pour trouver un billet en moins de 24 heures. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les sites des petites annonces pour voir si quelqu'un revend le précieux sésame.
Et alors ?
Eh ben, il y avait quand même plein d'offres, et plein d'offres apparemment locales, des jurassiens et jurassiens du village d'à côté qui vous expliquent même pourquoi ils ne peuvent plus aller au festival, ça donne confiance. Ensuite, par messagerie ou SMS, ces personnes vous rassurent encore, avant de vous demander de finaliser la transaction par Twint le plus souvent.
Oui, Twint, c'est bien suisse, donc ça aussi c'est rassurant, hein, plus rassurant que Western Union pour transférer de l'argent.
Exactement, et pour éviter le drame familial, j'arrête un peu de réfléchir, pas le temps non plus de me déplacer pour aller chercher le billet. Je paye par Twint, mais le billet ne viendra jamais. Deuxième tentative, j'insiste un peu, et cette fois, je reçois qu'une capture d'écran du billet, une photo de mauvaise qualité. C'est impossible de le scanner correctement, quand on arrive à l'entrée du festival, impossible de scanner correctement le QR code du billet. Alors plus tard, quand j'ai rebranché un peu mon regard critique, j'ai découvert en fait que beaucoup de ces vendeurs n'étaient pas du tout des habitants du coin, mais qu'ils avaient créé de jolis faux profils virtuels pour qu'on les croie honnêtes et proches de nous.
Oui, mais trop tard, vous vous étiez fait arnaquer.
Ouais, bref, je me suis fait arnaquer et j'ai perdu plusieurs dizaines de francs. Heureusement, j'ai quand même pu rentrer au Dricino grâce à une transaction honnête sur le site du festival et ma fille a pu aduler le Joker.
Donc tout est bien qui finit bien pour vous et surtout pour votre fille. Mais bon, voilà, ça n'est pas toujours comme ça. Bonjour Florence Frey.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en communication de la police cantonale vaudoise. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'histoire de Christophe, cette transaction malhonnête pour trouver un billet valable? C'est fréquent ce genre d'arnaque?
C'est fréquent et puis on constate effectivement depuis en tout cas 2023 qu'il y a une recrudescence par rapport à ce type d'arnaque. Donc le marché en ligne finalement est un danger pour tout le monde et vu qu'on est souvent dans l'euphorie du ticket, on peut se faire avoir.
Alors, comment faire quand le concert est complet? Comment acheter un billet revendu sur Internet, mais alors sans se faire avoir comme moi?
Alors premièrement, c'est important d'aller effectuer déjà des contrôles sur le site de la billetterie officielle pour voir s'il y a encore des disponibilités par rapport aux billets qu'on souhaite acheter. Si ce n'est pas le cas, effectivement, faire attention aux sites internet, notamment aussi Facebook Marketplace pour les nommer, parce que il y a des problématiques avec des escrocs qui n'hésiteront pas, par rapport à des concerts ou festivals prisés, de mettre des faux billets en guillemets. En fait, il s'agit plus d'une escroquerie qu'on appelle aux petites annonces et pas finalement de faux billets en soi. C'est vraiment des escrocs qui vont être des faux vendeurs.
Donc favoriser les plateformes officielles de vente et d'échange de billets. Vous recommandez aussi de rencontrer en personne, évidemment, là où le vendeur...
Exactement. Donc vraiment de privilégier le contact avec la personne et de le voir sur le moment pour échanger finalement le billet avec la transaction financière, c'est ce qu'on privilégie aussi.
Et si on peut pas rencontrer le vendeur en personne parce qu'il y a justement cette euphorie, parce qu'on a peu de temps en fait, quels sont les drapeaux rouges, les indices qui pointent vers voilà une potentielle arnaque en ligne?
Alors il y en a plusieurs. Il faut aussi faire attention au fait que des choses peuvent vous mettre la puce à l'oreille, notamment par exemple les incohérences. Si vous voyez que le compte qui a été créé tout récemment vous paraît très bizarre, eh bien en cas de doute, il faut renoncer. Il y a aussi des fois des problématiques de langue. Tout d'un coup, la personne vous parle en français ou en allemand, et puis ou par exemple elle vient de Suisse allemande, et puis elle vous dit qu'elle peut vendre le billet sur Lausanne. Enfin voilà, toutes ces incohérences qui peuvent aussi vous mettre la puce à l'oreille.
Sur les réseaux sociaux, cela dit, les faux profils sont extrêmement bien faits. C'est très très difficile de voir si on a affaire à un faux ou un vrai profil. Comment on fait? Est-ce qu'il y a quand même des indices qui nous permettent de déceler cela?
Alors il y a potentiellement des indices dans le sens que vous pouvez peut-être échanger avec la personne, discuter, aussi lui demander par exemple, moi je souhaite pas vous payer par Twin mais plutôt par virement bancaire. Si celle-ci elle refuse de vous payer par virement bancaire, enfin d'accepter le virement bancaire, là ça peut vous mettre aussi la puce à l'oreille parce que pourquoi elle refuserait finalement de vous transmettre ses coordonnées bancaires. Toutes ces petites choses qui peuvent vous aider.
Et il peut arriver, et c'était mon cas aussi, que le vendeur communique avec un numéro de portable suisse, WhatsApp par exemple. Ça, c'est une garantie que cette personne est en Suisse à côté de nous?
Non, c'est vraiment zéro garantie. Toute personne à l'étranger peut en fait avoir un numéro WhatsApp suisse et faire vous demander la transaction. Donc ce n'est pas du tout fiable et de nouveau on privilégie de passer par les plateformes officielles de vente de billets.
Et si la personne envoie sa carte d'identité par WhatsApp, une carte d'identité suisse, ça non plus, c'est pas une garantie que la personne est à côté de nous.
Tout à fait, ce n'est pas une garantie non plus.
On peut imaginer que la personne est à l'autre bout du monde, en train de se faire, faire semblant d'être un habitant de Suisse.
Voilà.
Ça veut dire que c'est un montage, en fait, ce qu'on reçoit, parce que je crois que vous avez reçu une copie de carte d'identité,
mais
c'était une fausse copie.
Une vraie photo d'une carte d'identité, j'ai en tout cas l'impression.
Non, il peut s'agir d'une usurpation d'identité, donc une vraie copie. À savoir que les auteurs n'hésitent pas aussi à passer par des intermédiaires en Suisse, qu'on appelle Money Mule, pour effectuer la suite des transactions qu'on connaît.
Justement, l'un des vendeurs m'a proposé de twinter le prix du billet, mais sur un autre numéro suisse. Ça aussi, c'est quelque chose qui éveille les soupçons?
Tout à fait. Il faut vraiment faire attention. Pourquoi la personne aurait un deuxième numéro, finalement, WhatsApp ou téléphone pour le twint, clairement? Ça doit mettre la puce à l'oreille et, en cas de doute, vraiment renoncer.
Donc ça, c'était très probablement une money mule, donc une personne qui a un numéro suisse, vraiment, qui est établi en Suisse et qui reçoit l'argent, c'est ça, hein? Qui reçoit l'argent, puis après mon argent, puis après le redonne à quelqu'un d'autre.
Oui, à savoir que la personne qui agit de cette sorte, qui est peut-être tout à fait pas consciente de ses actes, peut risquer en fait une dénonciation pour blanchiment d'argent.
En résumé, Florence Frey, les trois choses à faire si on veut aller au concert mais que ce dernier est complet, que les billets ne circulent plus que sur Internet.
Donc c'est vraiment privilégier les plateformes d'achat de vente de billets officielles. Et puis en cas de doute, renoncer à cet achat Je dirais encore ne pas céder à cette euphorie du ticket qu'on peut avoir, surtout si c'est un groupe qui est extrêmement connu.
Mmh. Mais quand on veut éviter le drame et puis on doit y aller.
Oui, quand on est mis sous pression comme Christophe par sa fille.
Alors voilà, il faut essayer de regarder avec ses contacts potentiellement qui ne vont plus aller au concert.
Des contacts de confiance
et pas forcément des inconnus justement.
Et puis là, on a parlé justement des gens qui cherchent un billet, mais si moi par exemple j'ai un billet à vendre que j'ai un empêchement de dernière minute, alors c'est vrai que je serais tenté de le présenter à mes contacts au dernier moment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi aux personnes qui cherchent à transmettre un billet au dernier moment? C'est de le faire aussi par la voie officielle, par le site officiel?
Oui, il y a aussi, maintenant en tout cas pour notamment certains festivals, hein, vous pouvez remettre en vente votre propre billet.
Des bourses d'échange?
Exactement, des bourses d'échange.
Oui, c'est tout simple. Par exemple, Ticket Corner, pour pas les citer, hein, vous avez acheté le billet là-bas, vous allez sur votre compte, la confirmation de commande, puis vous mettez remettre en vente mon billet via le site de Ticket Corner, c'est un clic, il y a aucun problème. Puis il y a des gros festivals qui le font aussi, le Hellfest pour ne pas le nommer, ou plein d'autres, même au niveau international. Puis un petit truc perso, ben vous allez sur, vous savez, on a plein de groupes WhatsApp qui généralement nous polluent nos téléphones.
Oui.
Bah pour une fois, vous allez sur un groupe WhatsApp au hasard, vous dites, j'ai un billet pour, Joker, je cherche un billet, j'ai un billet, puis donnez-le à vos contacts. Puis si vous partez d'un contact WhatsApp que vous connaissez, bah là, j'imagine que c'est un peu plus sûr, parce que copain de amis d'amis, c'est plus facile que des gens qu'on connaît pas sur Internet.
Oui.
On aurait pu faire cette chronique avec vous.
Voilà. Qu'un festivalier aguerri. Non,
voilà, festivalier. Effectivement aguerri, ouais. On peut changer de dire comme ça.
Eh ben, merci Antoine. On vous retrouvera tout ailleurs dans vos autres compétences, celle de la cuisine. Merci à vous, Florence Frey, spécialiste en communication à la police cantonale vaudoise, d'être venue apporter vos conseils. Très bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, le deuxième service, l'espace de vendredi réservé à vos réactions. Avant cela, les espaces libres.
Je contrôle, je gère, j'apprends, je digère, je veux maîtriser toutes les clés. Je remplis, je suggère, je structure l'univers, pas question jamais de rien lâcher. Et puis il y a ces autres terres.
Respiration, image,
ces horizons en haut des mers. Mes espaces libres, mes espaces libres, les lieux sensibles où je me laisse aller. Mes espaces libres, mes espaces libres, les ciels, les îles qui me font respirer. Ces jours qui nous laissent finalement si peu pour exister. Tout ce qui nous oblige, acrobatie, voltige, où je cherche encore à quoi m'accrocher. Et puis je passe d'autres frontières.
Je suis une ligne imaginaire
pour couler doucement mes rivières. Mes espaces libres, mes espaces libres.
Mes espaces libres,
les lieux sensibles où je me laisse aller. Mes espaces libres, mes espaces libres, les ciels, les îles qui me font respirer.
Mes espaces libres, nouveau single du duo valaisan Sophie de Couet qui sera en concert le 1er juin à Chalais-en-Valais et le 13 juin à Neuchâtel. 8h48 sur RTS Première, c'est l'heure de revenir sur la semaine écoulée à travers votre courrier.
On en parle. Deuxième service.
Et on commence par notre émission de lundi. On parlait de pauvreté et avec nos invités, on essayait de vous orienter vers les services adéquats. Ce qui a beaucoup énervé Véronique de Genève.
Je trouve extrêmement léger les conseils et dire il faut qu'ils appellent, il faut que ceci, il faut que cela. La réalité, c'est que le jour où vous vous retrouvez dans cette situation et que vous devez appeler à gauche, à droite, vous vous faites remballer par les gens, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils sont absolument incompétents. La réalité a changé. On n'est plus il y a 30 ans ou 50 ans en arrière. La réalité aujourd'hui, c'est que la classe pauvre est en train de grandir de façon exponentielle parce que la classe moyenne est en train de descendre justement en classe pauvre. Et là, ce n'est pas possible. Un pays comme le nôtre, on devrait avoir honte.
Et plutôt que de balader les gens vers tel ou tel service, Véronique verrait d'un bon œil qu'il y ait une sorte de chef d'orchestre dans chaque commune qui puisse apporter une aide concrète aux personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Et puis toujours sur le même sujet, voici les compléments de Jean-François et Monique.
Beaucoup de personnes envisagent de partir à l'étranger. J'habite dans le Val de Travers et il y a plein de logements bon marché. Alors je m'étonne que des personnes préfèrent partir à l'étranger.
En Valais, il y a la fondation Pape François qui peut venir en aide et octroyer une somme d'argent ponctuelle. Pour ça, il faut s'adresser au curé des paroisses.
Enfin, à l'auditrice qui pensait que les personnes migrantes étaient mieux traitées que les Suisses, Christophe tient à préciser ceci.
Il est important de signaler que toucher des prestations complémentaires entraîne la perte du permis de séjour, y compris pour les personnes originaires de l'Union européenne. Ceci crée donc des difficultés particulières pour les personnes migrantes.
Mardi, on vous parlait de l'application Fastaf pour trouver un petit job d'étudiant à travers la mise en relation des entreprises avec les étudiantes et étudiants. Et Zara nous écrit ceci.
C'est génial, mais il n'y a pas d'offre pour les plus jeunes. Les 15-18 ans qui veulent se faire un peu d'argent de poche et avoir des expériences concrètes du monde du travail sont flexibles et souvent très disponibles entre juin et fin août.
En effet, Fastaf s'adresse aux étudiantes et étudiants majeurs, mais je vous rappelle que nous avons mis en lien sur notre page plein d'autres adresses ou ressources qui proposent des petits jobs aussi pour les ados. Notre page, c'est rts.ch/on en parle, et puis rendez-vous ensuite sur la page de l'émission concernée. En l'occurrence, c'était celle de mardi passé. Et mardi, justement, on parlait des EMS à notre guichet et la question de la nourriture a notamment été abordée. Une question qui a eu beaucoup d'écho dans vos réactions.
Pour ma maman, la nourriture a été un gros problème. Elle aimait beaucoup manger et faire la cuisine. La nourriture n'était vraiment pas bonne. Je sais qu'on est en institution et que c'est compliqué, mais bien manger, c'est un des derniers plaisirs qu'il leur reste.
Ce n'est pas une exception d'avoir un régime qui n'est pas du tout adapté aux personnes âgées. Trop gras, du fromage le soir, des portions minimes. J'ai aussi vu qu'on sert le repas très tôt, même en été.
La moindre des choses serait de proposer une nourriture légère et facile à digérer, première condition pour garder sa santé.
La santé, on l'a aussi abordée en début de semaine avec les risques de légionellose. Elle m'a aimé toute ma douche, ma légionelle. Eh ben oui, parce que c'est sous la douche qu'on risque d'attraper cette maladie qui se développe dans des eaux stagnantes et qui est due à une bactérie, la légionelle. Une légionelle qui s'inhale dans les particules d'eau en suspension. Alors on rassure tout de suite l'auditrice qui s'offusquait du conseil que donnait notre invité, celle de prendre des bains plutôt que des douches ou de changer son pommeau de douche en début d'été. Gaspillage écologique, s'écrit cette auditrice. Alors on rappelle que ces conseils extrêmes ne s'adressent qu'aux personnes qui sont vraiment à risque. Et puis pour finir de vous rassurer, voici le message d'Henri.
La production de chaleur pour chauffer l'eau sanitaire de la majorité des installations qui ont environ 25 à 40 ans ont une consigne de chauffer à 60 degrés l'eau une fois par mois afin de détruire les légionelles. Donc en précisant cette obligation, les utilisateurs peuvent continuer à économiser l'eau en prenant une douche plutôt que de prendre un bain. Le changement de la pomme de douche peut aussi permettre d'économiser de l'eau, car le tartre diminue l'efficacité de ces pommes de douche. Ou alors, il faut procéder à leur nettoyage.
Mercredi, on vous parlait de randonnée à notre guichet, et pour vous, la rando, c'est le pied.
Quand j'étais jeune, je marchais souvent pendant des heures dans les Alpes grisonnes avec des espadrilles aux pieds. Cela fortifiait mes pieds. Mais mon petit ami de l'époque n'aimait pas du tout ça.
Concernant l'auditrice qui a rencontré des personnes asiatiques avec un enfant sur le dos entre Montreux et les Avants en tong, ayant fait 4 séjours dans l'Himalaya, j'ai vu d'innombrables locaux marcher et monter des chemins que je n'aurais pas pratiqués en tong et avec des chargements de plus de 50 kilos sur le dos. J'ai des photos à l'appui, il ne faut donc pas juger les autres.
Message de Claude et d'Evelyne. Et durant cette émission, souvenez-vous, Muriel Mera s'étonnait aussi de ceci.
Moi, ce qui me fait souvent sourire dans les panneaux indicateurs, les jaunes, parce que je vais pas dans les autres, c'est que souvent, quand on est à un croisement, on a un petit bonhomme qui va à gauche, un petit bonhomme qui va à droite, donc ça nous indique qu'on est sur un sentier piéton, mais ça nous indique pas où on va.
Et oui, mais heureusement pour elle, Tristan Cordonnier, responsable technique à Vaux Rando, était à l'écoute. Il nous a écrit « Ces indicateurs de direction sans destination indiquent simplement le bon chemin à suivre à un carrefour quand il s'agit d'itinéraires balisés. » Mais, précise Tristan, les itinéraires balisés ne sont que des recommandations. Les randonneuses et randonneurs restent évidemment libres d'explorer d'autres chemins. Et puis à propos des solutions d'alerte en cas de détresse au cours d'une randonnée, voici encore 2 suggestions.
Bonjour, c'est pour répondre à la question de savoir s'il existe une application qui permette de localiser en cas de malaise ou autre. Je conseillerais de télécharger l'application de la Rega tout simplement et de rentrer ses coordonnées. Et cette application nous permet en cas d'inactivité pendant un certain temps d'appeler automatiquement une personne de référence. Et si cette personne de référence n'arrive pas à nous joindre, la Rega est prévenue. Et la localisation est directement transférée, ce qui permet d'avoir une petite sécurité si on est tout seul.
Le système d'alerte de la Croix-Rouge a une variante qui peut être emportée et permet aussi la localisation par GPS.
Et pour terminer ce deuxième service, retour sur notre émission d'hier, nous réfléchissions à comment vivre avec moins de plastique.
Bonjour, j'écoute avec grand intérêt votre émission en ce moment sur le plastique. Et il y a une chose qui m'interpelle particulièrement parce que ça fait très 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 longtemps que personnellement je n'utilise plus de sacs plastiques pour aller faire mes courses, mais des sacs en tissu, des sachets en tissu pour mettre fruits et légumes. Et je me demande si on pourrait pas éventuellement forcer les grands supermarchés, les grandes surfaces à ne plus donner, offrir des sachets plastiques à volonté pour y mettre une banane, une orange, 2 pommes, 3 tomates, pour inciter les gens à ne plus utiliser les sachets plastiques, mais à prendre leurs propres sachets et voilà.
Et oui, autant les distributeurs que les producteurs en ont pris pour leur grade hier. Beaucoup de réactions pour dire que c'est bien beau de responsabiliser consommatrices et consommateurs, mais c'est aussi en amont qu'il faudrait agir. Merci à vous toutes et tous qui nous avez appelés, écrits, envoyés vos vocaux. Continuez de le faire au 076 206 12 12 ou à partir de 10h sur notre répondeur gratuit 0800 108 208. Sinon notre courriel, onenparle@rts.ch.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. Then again, incidentally, you're that way inclined. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.
drop of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You absolutely try.
Killer Queen, Queen pour terminer cette première partie dont on en parle. Et puis à suivre sur RTS Première, les infos et juste après, une séquence qui ne manquera pas de sel, notre guichet cuisine de ce vendredi avec vous Antoine.
Oui, on va parler de sel, sel de table, gros sel, fleur de sel, sel marin, un ingrédient souvent considéré comme essent sel dans nos recettes.
Ouh.
Mais comment bien l'utiliser sur le grill ou dans la casserole d'eau? Comment faire un poulet en croûte de sel, du citron confit au sel, du sel aux herbes? On répondra à ces questions et à toutes celles que vous vous poserez au 0800 108 208 avec deux invités, Laura Rod, chef du restaurant Benway à Corcelles-le-Jorat, et Florent Guillet, sous-chef du restaurant Les Escapades Gourmandes à Lausanne.
Et ça promet en jeu de mots.
L'heure avec RTS Première.
Petite pincée d'actualité avant de vous accueillir à notre guichet cuisine. C'est le journal, il est 9h sur RTS Première.